en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment les intellectuels chinois débattent-ils aujourd'hui en Chine? Que publient-ils? Quel style littéraire adoptent-ils après la dure période qui les a renvoyés au champ? Et maintenant qu'un Chinois vient d'obtenir le prix Nobel de littérature, quel panorama dresser? Tel est le thème de la communication lue par Sébastien Vaigue, directeur d'études à l'EHESS, devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 29 octobre 2012. Sébastien Vaigue a intitulé sa communication « Le questionnement du monde littéraire chinois d'aujourd'hui ». Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Sébastien Vaigue.
Dans le tour d'horizon des forces neuves qu'on voit monter dans le monde actuel et que nous observons au cours de cette année, il me semblait utile de ne pas mesurer uniquement les performances économiques, mais de prendre en compte aussi l'état d'esprit des populations dans les diverses sociétés et régions. Pour cet examen, plutôt que l'approche statistique des sondages d'opinion, dont nous savons les illusions et les mensonges, j'ai préféré choisir l'angle de la religion, ce que nous avons fait déjà pour la Chine elle-même et pour le Pakistan, et aussi l'angle de la littérature. La méthode a bien sûr ses défauts. On peut dire qu'elle est approximative, qualitative. Mais je pense qu'elle peut mettre en lumière les vrais problèmes de fond, les inquiétudes réelles et les inquiétudes imaginées, qui sont souvent aussi importantes que les inquiétudes réelles, de sociétés diverses. Cette approche par la littérature peut permettre d'approcher la vérité des rêves et la vérité des quêtes de différentes catégories dans les sociétés. Je pratiquerai cette exploration pour deux régions seulement, la Chine aujourd'hui et un peu plus tard l'Inde. Pour la Chine, j'ai été très heureuse que M. Sébastien Vaigue accepte de nous donner un aperçu sur le questionnement du monde littéraire chinois d'aujourd'hui en profitant d'un séjour à Paris. Il est stationné à Hong Kong, donc c'était assez compliqué à organiser. Et il vient seulement d'être élu aux hautes études, mais il ne prendra son poste en réalité à Paris que l'an prochain. Monsieur Vaigue est normalien, agrégé de lettres modernes, docteur de l'Université d'Aix-Marseille en 2004, avec une thèse de littérature comparée sur les fictions chinoises du pouvoir et du changement politique, dans laquelle il mettait en parallèle les œuvres de Kafka, de Brecht, de Victor Segalen et les romanciers chinois Lu Xun et Lao She. Cette thèse a été publiée en 2009 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Monsieur Vaigue a acquis sa formation sinologique et orientaliste sur le terrain principalement, par de longs séjours à Pékin, au Japon et surtout à Hong Kong, où il a été chercheur au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine depuis 2006. Et il a pris la direction de ce centre tout récemment, en 2011. Je vous l'ai dit, il vient d'être élu directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de traductions critiques de différents écrivains chinois contemporains. Il a écrit de très nombreux articles, en particulier dans la revue Perspective chinoise, qui est publiée à Hong Kong, à la fois en français et en anglais, grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères depuis déjà près de 20 ans. Et ses travaux portent sur les relations entre littérature, démocratie et culture locale. Depuis l'avènement de la République jusqu'à nos jours, et Plus récemment, il s'est intéressé spécialement à l'émergence de ce qu'il appelle une contre-culture, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une contre-culture, dans la littérature et le cinéma chinois, surtout depuis les événements de Tiananmen en 1989. J'ai fait appel à lui alors qu'il y a un grand nombre de personnes très compétentes sur le monde culturel chinois en France, parce que c'est un jeune chercheur qui est en contact avec la jeune génération chinoise et le jeune public chinois, la jeune génération de créateurs. Et il me semblait que c'était plus intéressant pour vous d'avoir cet éclairage. Et d'autre part, il était capable, par sa formation, de donner un point de vue comparatiste. Monsieur Weig est bilingue, allemand-français, même trilingue, allemand-français-anglais. Donc, il a une vision de la littérature chinoise qui n'est pas, comme celle de beaucoup de spécialistes, uniquement bornée à cette littérature elle-même. Et je pensais que pour vous, et pour l'éclairage que nous devons avoir ici, c'était une chose qui était intéressante. Monsieur Weig, je vous prie de prendre la parole et de nous instruire.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie de l'honneur qui m'est fait par cette invitation à vous présenter mes recherches récentes sur le monde littéraire chinois. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque le temps est compté. Madame la Présidente, vous ne pensiez sans doute pas que la date du 29 octobre suivrait de si peu la remise du prix Nobel de littérature à un premier écrivain chinois de nationalité chinoise vivant sur le continent, qui donne donc une actualité nouvelle à cette intervention. Donc l'année 2012, de ce point de vue, marque certainement un point culminant dans l'intérêt porté dans le monde à la littérature chinoise contemporaine. Ce qu'on a vu en Chine et dans le monde, les lecteurs se précipitaient vers les librairies pour acheter les ouvrages de moyenne. On peut espérer que cette récompense mette fin à des débats qui, ces dernières années, avaient pris un tour de plus en plus acrimonieux, puisque les critiques chinois accusaient les pays occidentaux, représentés par le comité Nobel, de ne pas juger à la même aune les écrivains chinois et occidentaux. Depuis les années 80, en effet, le prix Nobel était devenu une véritable obsession en Chine. De ce point de vue, son attribution en l'an 2000 à Gao Xingjian, un écrivain en exil de nationalité française et qui refuse l'idée même d'appartenance nationale, fut vécue par l'establishment littéraire chinois comme un camouflet. Le prix Nobel de la paix, attribué en 2010 aux dissidents emprisonnés, à l'origine universitaire et critique littéraire, Liu Xiaobo, acheva de persuader une partie des écrivains chinois que les prix Nobel étaient un outil diplomatique plus qu'une reconnaissance substantielle. Si l'heureux élu est finalement Moyenne, auteur bien connu en France par les nombreuses traductions de ses romans, on peut regretter que cette récompense vienne à un moment où ses dernières œuvres ont été jugées répétitives par la critique chinoise, ressassant des thèmes qu'il a été parmi les premiers à aborder dans les années 1980. Ses épopées fantastiques du terroir, narrées dans une langue marquée par l'oralité, privilégié dans la tradition communiste des causeries de Yan'an, contraste fortement avec l'expérience actuelle d'un cynisme croissant dans le monde littéraire qui pousse à la recherche d'espaces extérieurs au système et d'une langue débarrassée de l'héritage maoïste. Pour aborder le questionnement du monde littéraire aujourd'hui, il est donc utile de faire un détour par les années 1980 et en particulier l'année 1989 qui représente à la fois leur aboutissement et une rupture profonde dans l'histoire chinoise récente. Les années 80, marquées par la politique d'ouverture et de réforme mise en œuvre par Deng Xiaoping à partir de 1978, sont une décennie d'intenses débats intellectuels, pendant laquelle les écrivains renouent avec les grandes joutes de l'époque du 4 mai 1919 sur la démocratie et la science, l'occidentalisation, que la plupart des intellectuels appellent de leur vœu, mais aussi la nécessaire redécouverte de la culture chinoise traditionnelle, durement mise à mal pendant la révolution culturelle. On assiste ainsi à la naissance du genre de la littérature des racines, romans fleuves ancrés dans le terroir, parmi lesquels on peut compter les premiers romans de Moyenne, ceux d'Acheng ou de Han Shaogong. Ce genre des racines est organiquement lié à celui de la littérature de cicatrices consacrée aux victimes du maoïsme. C'est bien souvent dans la culture traditionnelle, redécouverte à la campagne, que les droitiers, les victimes du mouvement anti-droitier de 1957, ou les jeunes instruits, envoyés à la campagne pendant la Révolution culturelle, puisent les ressources d'une rédemption morale permettant de surmonter les humiliations politiques. Tout au long de cette décennie, l'univers référentiel des intellectuels reste largement marqué par la responsabilité traditionnelle envers la société, que ce soit celle de l'intellectuel du 4 mai, défini sous l'emblème des Lumières, ou de l'injonction confucéenne à considérer le monde sous le ciel comme sa responsabilité, comme le font encore les étudiants de 1989. Mais comme cela avait été le cas lors de la sortie de l'Empire au début du XXe siècle, la réforme institutionnelle, qui a suscité l'enthousiasme dans les années 1980, finit par conduire à l'impasse. Après la répression sanglante du mouvement démocratique de 1989, les intellectuels se détournent de ce rôle central dans la société et se portent vers les marges et une définition du politique qui contourne la réforme institutionnelle. Ils cherchent alors à nourrir une culture démocratique sur les campus, dans les villages d'artistes, où ils tournent et diffusent des documentaires ou dans des actions sociales ou environnementales ciblées sous la forme du volontariat. Le cinéma indépendant, apparu dans les années 1990, se revendique comme un travail d'amateur, comme l'écrit Tsiadzhenko, situé parmi les gens ordinaires, par opposition aux productions officielles. Les festivals semi-officiels, projections privées, cafés-débats représentent autant de lieux ni officiels, ni oppositionnels, ni commerciaux, où le cinéma cherche à créer un espace public embryonnaire pour débattre directement, comme le font eux aussi à leur manière les pétitionnaires, des questions politiques centrales de la société chinoise. Les cinéastes, comme les intellectuels plus largement, s'appuient sur de nouvelles formulations, apparues dès la fin des années 1980, d'une légitimité politique fondée sur les cultures alternatives, les groupes faibles, c'est-à-dire les marginaux ou les exclus, victimes de persécutions politiques ou laissés pour compte de la croissance économique en situation de faiblesse, comme les pétitionnaires qui demandent le redressement des abus commis par les autorités. Ce tournant correspond également à la réception chinoise de Foucault et de penseurs postmodernes après une décennie des années 1980, marquée par les références aux Lumières, à la démocratie avec Václav Havel ou à l'espace public avec les travaux de Habermas. J'ai ainsi formulé l'hypothèse d'une culture démocratique ou d'un détour par la culture qui cherche à atteindre directement la société en contournant les institutions politiques, à l'instar du détour effectué par les intellectuels du 4 mai, constatant l'échec de la révolution de 1911. L'échec de la réforme par les institutions dictait, en 1919, une nouvelle priorité, former des citoyens, notamment par l'activisme littéraire et la promotion de la langue vernaculaire. Et de même, au début des années 1990, les intellectuels, dont l'élitisme est mis en cause dans l'échec du mouvement de 1989, sont frappés d'un discrédit certain. C'est alors que l'écrivain Wang Xiaobo théorise une nouvelle configuration sociale dans son essai « La majorité silencieuse », écrit en 1992, une majorité dans laquelle il voit le plus grand des groupes faibles qui composent la société chinoise et qui se situe de façon critique sans affronter directement le pouvoir. Les idées formulées dans ce texte central de la réflexion des intellectuels après 1989 ont irrigué des pans entiers d'une société chinoise qui s'affirme et se représente désormais dans une grande diversité. Je m'efforcerai de développer ici différents aspects de ce nouveau tournant pris par la littérature depuis 1989 et dont les effets continuent à se propager aujourd'hui. Mon premier point est donc consacré à cet écrivain Wang Xiaobo et à son idée de majorité silencieuse. Wang Xiaobo, mort prématurément d'une crise cardiaque en 1997 à l'âge de 45 ans, peut être considéré comme l'écrivain le plus représentatif de ce tournant dans le monde littéraire. Envoyé comme jeune instruit au Yunnan de 1968 à 1970, il revient à Pékin dans les années 80 avant de partir à l'université de Pittsburgh, accompagnant sa femme Li Yinhe, l'une des premières sociologues de la sexualité et du genre en Chine, devenue depuis une célébrité. Fortement influencé par l'histoire de la sexualité et d'autres œuvres de Foucault, Wang Xiaobo entreprend de repenser l'histoire contemporaine chinoise à travers des catégories comme les marginaux ou le biopouvoir. Il s'intéresse également de près à Brodel, dont il entend transposer les principes en littérature à travers une trilogie romanesque, L'âge d'or consacré au présent du maoïsme et du post-maoïsme, et suivi de L'âge d'argent, utopie négative située dans un futur totalitaire, et de L'âge de bronze qui se replonge en arrière dans le temps long de l'histoire de l'époque Tang. Après 1989, dans l'atmosphère de morosité et de repli intellectuel qui suit la répression, après la publication en 1992 de sa première œuvre de fiction, ses nouvelles, romans et essais rencontrent soudain un public enthousiaste, si bien que ses essais, réflexions de critique culturelle et politique, sont publiés par le célèbre hebdomadaire de Canton, le Nanfang Zhoumo. La relative libéralisation du monde éditorial, induite par la politique de privatisation et de commercialisation relancée par Deng Xiaoping en 1992, donne aux œuvres de Wang une plus grande diffusion. Les étudiants en particulier se jettent dessus en faisant l'écrivain sérieux le plus lu de sa génération. Je voudrais reprendre ici quelques analyses que j'ai proposées de son essai « La majorité silencieuse », publié pour la première fois donc dans la revue Dongfang en 1996. Dans ce texte, Wang Xiaobo fait d'abord l'éloge du silence comme antidote à la parole tonitruante du maoïsme. Je cite « En général, c'est en entrant à l'école, à l'âge de 7 ans, que l'on entre en contact avec les bienfaits de la parole. Je pense que dans mon cas, cela commença encore plus tôt, car aussi loin que je me souvienne, le monde extérieur a toujours été plongé dans des hurlements stridents et un vacarme sans repos. Il en ressortait qu'un mou de terre pouvait produire 300 000 livres de céréales. C'est précisément à ce moment que nous commençâmes à mourir de faim. Tout compte fait, depuis mon enfance, je ne fais pas beaucoup confiance aux paroles prononcées à haute voix. Plus le ton est sévère et la voix sonore, moins j'ai confiance. Cette attitude de doute dérivait directement de mon ventre affamé. Comparée à n'importe quelle prise de parole, la faim représente toujours une vérité plus profonde. Le monde de la parole est en réalité identique avec le monde du pouvoir, pétri de mensonges, d'idéologies, de rapports de force. C'est lui qui a permis d'étiqueter et de persécuter les catégories noires pendant la révolution culturelle et de cacher la réalité de la famine. Le choix du silence est au contraire une position de résistance et de repli sur le corps. La faim, elle, ne ment pas. Wang Xiaobo oppose ainsi le monde du yang, monde masculin du pouvoir et de la prise de parole publique, au monde du yin, féminin, adepte de l'ombre et du détour par les marges. Jouant sur une proximité phonétique entre shuo, parler, et shui, impôt, Wang désigne la prise de parole publique comme un tribut que l'écrivain paye à l'État. Les Chinois éduqués ressentent une responsabilité très forte envers la société. Ils doivent payer leurs impôts, être de bons contribuables. Voilà la formulation déplaisante. La formulation plus plaisante consisterait à dire « prendre le monde sous le ciel pour sa responsabilité ». En citant cette formule qui renvoie à la responsabilité traditionnelle du lettré, Wang Xiaobo refuse d'entrer dans ce monde de lutte de pouvoir, celui du lettré classique ou du compagnon de route du PC, où l'écrivain est responsable de dire le bien et le mal dans le monde social. L'écrivain n'a aucune vérité à révéler. Comme l'écrit Wang, vouloir éduquer les autres à l'aide de sa propre ignorance est la faute la plus terrible que peuvent commettre les gens de bon cœur. Il revendique au contraire une position de solidarité engagée avec les marginaux, les exclus, et se prévaut de la neutralité axiologique pour considérer les individus de façon égale. Wang s'intéresse donc à ceux qui restent silencieux, c'est-à-dire dans un régime totalitaire ou autoritaire, la majorité de la population. Nouvelle citation de cet essai. « Il y a quelques années, j'ai participé à des enquêtes sociologiques et pour cette raison, je suis entré en contact avec des groupes faibles, dont le plus atypique était celui des homosexuels. Après cette enquête, je me suis soudain rendu compte que ces prétendus groupes faibles étaient constitués de personnes qui ne disent pas certaines choses tout haut. Parce qu'ils ne parlent pas, certains pensent que ces groupes n'existent pas ou qu'ils sont très loin d'eux. Ensuite, je me suis aussi soudain rendu compte que moi-même, je faisais partie du plus grand de ces groupes faibles qui a existé de tous les temps, à savoir la majorité silencieuse. Les raisons pour lesquelles ces membres restent silencieux sont multiples et variées. Certains n'ont pas la capacité ou pas l'occasion de s'exprimer, d'autres ont des sentiments privés qu'ils préfèrent taire, d'autres encore, pour beaucoup de raisons, éprouvent un sentiment d'hostilité envers le monde des prises de parole. Je fais partie de cette dernière catégorie. Mais en tant que personne de ce type, j'ai tout de même le devoir de parler un peu de ce que je vois et de ce que j'entends. Ce qui remplace donc une vision de la société où l'intellectuel prend la responsabilité de dire ce qui est juste en vertu de ses qualités morales est une société non normative où les écrivains ne représentent eux-mêmes qu'un des groupes faibles parmi d'autres, tous persécutés pour une raison ou une autre. Il ne détient pas de savoir supérieur sur la société, mais une légitimité qui découle de sa communauté de situation avec d'autres groupes faibles. Wang Xiaobo a ainsi théorisé avant l'heure ce qui s'est réalisé sociologiquement dans les années 2000 dans des lieux comme le village d'artistes de Songjiang où artistes universitaires, cinéastes et activistes d'ONG se rejoignent. Le rôle de la littérature dans ce dispositif, au-delà de sa neutralité axiologique, est à chercher dans son pouvoir de tourner en dérision le monde même de la parole, du langage. Fils d'un logicien célèbre qui vivait dans la terreur du régime, Wang Xiaobo a truffé ses œuvres d'absurdités logiques et de trouvailles linguistiques. Par exemple, dans « L'âge d'or », le narrateur fait mine de prendre toutes les recommandations politiques au pied de la lettre, les poussant à leur point extrême d'absurdité et d'autocontradiction. Son usage des raisonnements répondant à une logique formelle est particulièrement satirique. Lorsque la protagoniste Chen Xingyang demande au narrateur pourquoi on l'appelle « chaussure trouée », appellation maoïste utilisée pour dénoncer les femmes de mœurs supposées légères, plutôt que de la défendre contre l'accusation en invoquant les faits, il entreprend de lui prouver tout au long de son récit que l'allégation est vraie, changeant les faits pour les mettre en accord avec les mots. Elle était victime d'une rumeur, on répétait qu'elle faisait la traînée avec moi. Elle voulait que je témoigne de la totale innocence de nos relations. Je lui rétorquais qu'il aurait fallu pour cela convaincre d'abord les gens de la véracité de deux faits. Chen Xingyang est vierge, moi-même j'étais un castrat de naissance, incapable d'avoir de relations sexuelles. Ces deux faits étaient difficiles à établir, notre innocence l'était aussi. D'ailleurs, j'avais personnellement tendance à penser que je n'étais pas totalement innocent dans cette histoire. Ainsi, la fiction finit par produire de la réalité. Catégories politiques et slogans sont changés en événements par le respect scrupuleux de la logique formelle et par la rédaction d'autocritique. Cet usage de la logique poussée à l'absurde est bien sûr une parodie du langage maoïste qui a le pouvoir de traduire les catégories linguistiques en réalité politique. L'utilisation d'apories logiques du type paradoxe du menteur participe ainsi de cette démaoïsation de la langue que le critique Li Tuo appelait de ses voeux dans un célèbre article de 2009. On peut en donner un autre exemple tiré de l'âge d'or où le narrateur doute de sa propre existence. Ainsi donc, il y avait des gens pour affirmer que Wang Er n'existait pas. C'est cela qui perturbait le plus les gens. Si une chose dont tout le monde affirme l'existence n'existe pas, c'est parce que toute réalité est illusoire. Mais certaines choses dont tout le monde nie l'existence existent nécessairement, par exemple Wang Er. S'il n'avait pas existé, d'où serait venu ce nom ? On voit parfaitement la transposition politique que l'on peut faire de ce paragraphe satirique où l'existence d'un nom garantit l'existence de la chose et surtout vice-versa dans le contexte maoïste. D'une certaine façon, le déploiement de la littérature chinoise après la mort de Wang Xiaobo en 1997 n'est qu'une poursuite des thèmes annoncés dans ses réflexions. Je tenterai ici d'en aborder trois. Le cynisme comme rupture avec la position de conscience morale, la revendication de la marginalité géographique comme antidote à l'orthodoxie centralisatrice et l'élaboration d'une nouvelle mémoire de l'époque maoïste qui n'est plus marquée par la posture victimaire des intellectuels. Donc je passe à l'exemple du poète Yu Dian, donc les marges géographiques comme façon de se situer à l'extérieur du monde du pouvoir. Donc cette situation sur les marges renoue avec une tradition littéraire chinoise, la revendication d'un ancrage dans les marges géographiques et en particulier méridionales, où les conceptions politiques et la langue elle-même sont moins orthodoxes, le dialecte devenant facilement une métaphore de l'éloignement d'un centre non seulement géographique mais surtout politique et culturel. Ainsi, le poète yunnanais Yu Dian, né en 1954, renvoie dos à dos l'écriture officielle et les poètes dissidents comme Bei Dao et revendique une écriture méridionale, une écriture des frontières, privilégiant le dialecte et l'expérience quotidienne contre la primauté de la nation et des grandes questions qui agitent la scène littéraire. Yu Dian est d'abord devenu célèbre dans les années 1980, quand il s'est mis à publier des poèmes en prose, d'une grande oralité, tous consacrés à la vie quotidienne à Kunming, aux soirées entre amis, aux bons plats du Sud, comme par exemple le poème « Six rues Changyi » qui a été traduit en français et qui évoque la maison d'un ami du poète, le dramaturge et cinéaste documentaire Wu Wenguang. À partir des années 1990, Yu Dian a commencé à produire un corpus important de textes théoriques consacrés à la poésie, notamment « Rejeter la métaphore »,« Reculer devant la métaphore », »,« La poésie comme méthode » et « Le dur et le mou de la langue poétique » sur deux types de directions dans la poésie contemporaine. Lui aussi privilégie le corps. Il détourne le vieil adage du classique des odes selon lequel la poésie dit l'intention, qui transforme en Shiyanti, la poésie dit le corps, titre d'un essai publié en 2001. C'est à cette époque qu'il développe l'idée du Minjian, terme central dans l'organisation sociale chinoise contemporaine, que l'on peut traduire par non officiel ou populaire, voire éventuellement folklorique, et que Yu Dian oppose bien sûr à la littérature officielle, mais tout autant à l'avant-garde qu'il rejette comme une forme d'écriture intellectualiste. Sa poésie se distinguera, affirme-t-il, des trois colosses, que sont le système politique, le marché et l'Occident. Lui-même positionne son œuvre en marge de toutes ces dichotomies, ni officielle, ni occidentalophile et donc d'avant-garde, ni politique, ni commerciale. L'universitaire Marie van Crevel a proposé un ensemble d'oppositions utiles pour situer Yu Dian qu'il place du côté du terrien, contre le sublime auquel il associe d'autres poètes comme Sichuan, actifs dans les années 1980. D'un côté, on trouve la langue standard, le mandarin, le discours maoïste ou de propagande, le rôle traditionnel de la littérature qui transmet la voix, la métaphore, les utopies, l'élitisme d'inspiration occidentale et l'écriture intellectuelle. Du côté terrien, au contraire, on trouve l'oralité ou le dialecte, l'humour, la marginalité, la démystification, le refus de jouer un rôle social, la poésie du quotidien et enfin l'utilisation de blanc à la place des signes de ponctuation pour ouvrir la syntaxe du chinois moderne. Son long poème narratif « Un vol », publié pour la première fois en 2000, prend pour point de départ un trajet en avion symbolique de la Chine vers l'Europe où le poète va assister à un festival de poésie internationale. Avec une suite de montages et de juxtapositions, le poète transforme son texte en terrain de bataille entre le pouvoir classifiant du langage et la puissance explosive de l'individuel, du vernaculaire et du poétique. La critique politique n'est donc jamais une fin en soi. Elle est plutôt le résultat d'un dynamitage des catégories mêmes de la langue. Je cite « Être un poète, c'est simplement faire des histoires pour rien, provoquer la colère des parents et des autorités. » Toujours intempestif, toujours plein d'incohérences. À chaque occasion d'être décalé, je suis décalé. Une erreur en entraîne une autre, une autocritique qui ne passera jamais. Je suis le défaut du monde, sa plaie, une écharde dans son œil, son abcès syphilitique. L'originalité de Yu Zhen, qui prend volontiers à l'occasion des positions très critiques de l'Occident, voire anti-intellectualiste, est de justifier sa poétique au nom d'une dimension locale. De même que son avion s'envole de Kunming vers le monde, symbolisé par des rencontres poétiques internationales, sans passer par Pékin. De même, le local peut s'universaliser sans passer par la dimension nationale, horizon incontournable des écrivains des années 1980. Le lieu de naissance du poète est ainsi proclamé dans le poème. « Je suis né le matin du 8 août 1954 dans la province du Yunnan en Chine, un plateau en retard sur la nouvelle société. Là-bas, le temps est le ventre flasque des bêtes. » est le jaune d'un vieil œuf pelé couvé dans le ciel. Là-bas, les hommes et les dieux vivent en voisins, vénérables propriétaires terriens, sa vérité est valable dans le monde entier. La critique politique, si elle est claire dans ce petit passage, découle du positionnement géographique, qui est en même temps métaphysique. Puisque les hommes et les dieux vivent en voisins, le temps est décalé par rapport au temps normal de la société. La poésie du corps, du quotidien, de l'oralité et des marges géographiques peut alors dialoguer avec l'universel, tout comme le poète dialogue avec Eliot dans l'avion qui le mène en Belgique. L'hétérodoxie devient ainsi une méthode pour rétablir des liens au-delà des frontières rigides de la modernité et de l'État-nation. Mon dernier exemple sera l'émergence d'une autre mémoire du maoïsme. Dans les années 1980, comme je l'ai dit précédemment, la littérature des cicatrices visait à réhabiliter les intellectuels dans un rôle de conscience sociale de la nation qui leur avait été injustement dénié. C'est du moins ce qu'ils estimaient. Si les récits de séjour à la campagne sont souvent décrits par les intellectuels comme de véritables calvaires, il est rare que l'expérience soit elle-même soit présentée sous un jour entièrement négatif dans cette littérature. Les plus célèbres parmi les auteurs des cicatrices, comme Zhang Xianliang, décrivent une acceptation par les victimes de leur sort qui débouche sur une révélation morale permettant de donner sens à une expérience historique, qui est d'ailleurs plutôt celle de la révolution culturelle au sens étroit que celle du maoïsme dans son ensemble. Les années 50, les 17 années, restant bien souvent épargnées. Ces récits, dont la publication était courageuse au début des années 80, se situaient néanmoins tout à fait à l'intérieur du cadre acceptable par le parti, défini par la résolution sur l'histoire du Parti communiste de 1981, dénonçant la révolution culturelle comme un excès, sans pour autant remettre en question l'organisation de la société qui l'avait permise, ni le rôle de l'écrivain dans cette organisation. Le futur prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, a publié dès 1986 un essai brûlot s'en prenant à la littérature des cicatrices comme un genre larmoyant dans lequel les atrocités de la révolution culturelle sont en fin de compte rachetées par la redécouverte de la culture traditionnelle chinoise enfouie à la campagne et d'un mode de vie plus authentique. L'âge d'or de Wang Xiaobo, brève nouvelle qui rendit l'auteur célèbre du jour au lendemain, marque ici aussi une rupture. En dépeignant de façon provocatrice l'envoi à la campagne des jeunes instruits pendant la révolution culturelle comme une opportunité de libération sexuelle du puritanisme maoïste, mais qui pousse les jeunes instruits dans une régression vers l'état animal, Wang Xiaobo suggère déjà la véritable nature des processus de déshumanisation qui étaient en mouvement lors de cet épisode historique. Plus récemment, les années 1950 ont fait l'objet de travaux d'histoire orale, comme le volume « Stèle funéraire » de Yang Zisheng, tout récemment publié en français, ou le recueil de Yang Xianhui, « Chronique de Jia Biango », traduit en français, malheureusement traduit de l'anglais, sous le titre « Le chant des martyrs » dans les camps de la Chine de Mao. Cet ouvrage est consacré à la famine dans un camp de travail où ont été envoyées les victimes du mouvement anti-droitier en 1957. Comme Wang Xiaobo, l'auteur montre le projet maoïste comme une entreprise délibérée de déshumanisation, de destruction de liens sociaux et humains dans laquelle se trouvent entraînés bon nombre de citoyens ordinaires. Yang Xianhui, en publiant un recueil de nouvelles qui repose sur des témoignages fictionnalisés à dessein, à la fois pour éviter des ennuis aux intéressés, mais aussi pour leur donner une valeur plus universelle, choisit volontairement une forme fragmentée, où il est impossible de transformer la multitude de témoignages individuels en un récit unique. Yang Xianhui met l'accent sur la dimension corporelle de la famine, s'attardant longtemps sur ses effets physiques ainsi que psychiques, en particulier la déshumanisation dont il suggère qu'elle n'a pu qu'être un objectif conscient du régime. Les détenus du camp de travail de Jia Biango, où sont enfermés des droitiers à partir de 1957, sont ainsi envoyés dans une ferme reculée en plein désert à Mingshui, où ils devront eux-mêmes pourvoir à leurs besoins. Autant dire vers une mort certaine en pleine grande famine du Grand Bond en avant. Affamés, les détenus se dépouillent eux-mêmes de la dignité humaine élémentaire, réduits à se nourrir de vomi, d'excréments ou de la chair des morts. En même temps, le mécanisme du mouvement anti-droitier est démonté dans ses principes politiques. Il ne dépend en effet pas tant d'une idéologie substantielle que d'une logique administrative proprement absurde, dont Yang Xianhui souligne les aspects les plus choquants. Le fait que l'étiquette de droitier soit simplement attribuée sans forme de procès ni d'appel, par exemple. Les témoignages montrent que les intellectuels n'étaient pas tant des victimes incomprises, dont la loyauté aurait été trahie par Mao, mais bien plutôt des membres du parti ordinaire, persécutés au nom d'une discipline interne sans appel. Leur statut était précisément ce qui les empêchait de comprendre la nature extra-légale de la politique maoïste. Yang Xianhui met ainsi à bas le mythe des intellectuels persécutés au nom de leurs convictions, drapés dans leur supériorité morale et soucieux de retrouver leur place légitime. L'étiquette politique de droitier cache également bien souvent de simples règlements de comptes locaux, notamment au détriment des femmes. Si la société maoïste est caractérisée par une grave érosion de la confiance mutuelle la plus élémentaire, sans laquelle une société ne peut pas fonctionner et qui laisse des traces palpables aujourd'hui, Yang Xianhui ne prononce pas de jugement moral sur les individus. Presque tous ceux qui ont survécu sont coupables de quelque chose, tant les choix sont limités, et l'intellectuel héroïque de la littérature des cicatrices est ici démasqué comme délateur, poltron, voire cannibale. Plutôt que de les condamner, Yang Xianhui montre qu'ils sont confrontés à des dilemmes insolubles. Toutes sortes de compromis éthiques sont possibles quand on ne peut sauver sa vie qu'en abandonnant ou en cannibalisant son voisin. C'est l'organisation politique et non l'individu qui doit en porter la responsabilité. Ici aussi, la prise de parole littéraire dans les interstices du système de censure est donc une façon à la fois d'ouvrir un débat historiographique impossible dans la sphère officielle et de poser la question de la nature du régime actuel à travers des débats qui irriguent la société chinoise. Nous avons donc développé l'hypothèse d'un tournant dans le débat culturel chinois avec l'année 1989, suivi de près par la publication des essais de Wang Xiaobo. Wang refuse l'idée de responsabilité de l'intellectuel, prônant une attitude de neutralité axiologique empruntée aux sciences sociales. Cette neutralité suppose une distance qui doit être rétablie dans la langue elle-même en utilisant les apories logiques pour démaoïser la langue, condition nécessaire pour que la majorité puisse sortir de son silence. À sa suite, Zhu Wen, donc sur lequel je suis passé très rapidement, dont les récits crus dépeignent une réalité sociale où seul compte l'argent, la consommation et le plaisir immédiat de la rencontre sexuelle, achève de dynamiter la figure de l'écrivain qui est lui-même emporté dans le maelstrom de la consommation, sa seule chance d'échapper aux pesantes contraintes familiales et politiques de la vie quotidienne. Une figure de l'écrivain amoral, voire cynique, semble signaler la fin des grandes causes politiques défendues par les intellectuels. Le poète Yudian, se revendiquant des marges méridionales, développe une position paradoxale, rejetant aussi bien le monde littéraire officiel que les avant-gardes et l'Occident, à la faveur d'une création ancrée dans le terroir, dans la langue dialectale, hétérodoxe, dénuée de ponctuation, et fait exploser à sa manière les catégories figées du discours maoïste. Enfin, Yang Xianhui et les nouvelles approches de la mémoire de la période maoïste démontrent que les écrivains peuvent encore se confronter directement à de grands problèmes politiques de la Chine contemporaine. Cette confrontation se fait cependant au prix d'une fragmentation qui ôte aux intellectuels leur rôle de victime exemplaire de la persécution sous Mao et les réintègre parmi les victimes ordinaires du maoïsme quotidien, une société dépeinte comme marquée par une politique active de déshumanisation qui aboutit à saper la confiance élémentaire entre les individus. Il va de soi que ces quelques nouvelles tendances ne sont que des esquisses et que par ailleurs les écrivains devenus célèbres dans les années 80 comme moyenne continuent à produire des œuvres, souvent même en grande quantité, qui relèvent plutôt de problématiques plus anciennes. Néanmoins, il semblerait que la diversification croissante de la société chinoise, ainsi que le traumatisme fondateur de 1989 et la critique qui a suivi de l'élitisme des mouvements étudiants des années 80, provoquent également une nouvelle aspiration à des formes de vie plus marginales qui rejettent tout ensemble la politique, la culture de consommation et le rôle traditionnel d'autorité morale des intellectuels. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre le chercheur Sébastien Weg. Le texte de sa communication sera disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière Asymétrie et force neuve du monde actuel, sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement en libre accès permanent.